بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal nous accepte ce soir pour consacrer 15 ou 20 minutes pour l'étude d'un hadith, d'une parole de notre prophète alayhi salatu wa salam. Et nous avons maintes et maintes reprises répété que les paroles du prophète alayhi salatu wa salam, ce sont les paroles qui nous garantissent le succès de ce dunya et l'acceptation par Allah le jour des comptes. Et notre prophète alayhi salatu wa salam, de ce long hadith qu'on a commencé à expliquer la semaine dernière, nous rappelle cette réalité qui touche le croyant. Une des réalités touchera obligatoirement le croyant, ou deux de ces réalités, ou trois, ou plusieurs, ou les sept points pourraient toucher le croyant. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam encourage le mu'min à accomplir le maximum de bonnes actions avant d'être éprouvé par ces situations, par ces sept situations. On répète, le prophète alayhi salatu wassalam encourage le croyant à accomplir le maximum de bonnes actions, à se rapprocher d'Allah au mieux, autant qu'il peut, avant qu'il soit touché par un de ces sept points, ou plusieurs, ou la totalité de ces événements. Parce que lorsqu'un mu'min, lorsqu'un croyant est touché par une de ces sept choses annoncées par le prophète alayhi salatu wassalam, sa situation n'est plus stable. Et parfois, il trouve du mal à trouver une stabilité dans sa foi et dans sa pratique. Maintenant, si en amont, la personne avait les bonnes habitudes dans les bonnes actions, les bonnes habitudes dans l'éloignement du haram, dans le retour auprès d'Allah, dans l'orientation du cœur vers Allah, quelles que soient les situations qu'elle va vivre un jour, une de ces sept ou les sept, la personne trouvera la force. La personne trouvera la force de iman, de foi, pour rester dans le droit chemin. Et la semaine dernière, on avait rappelé deux de ces épreuves ou de ces situations que le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé. Donc, il avait parlé d'une pauvreté qui fait oublier à l'homme l'objectif de sa vie. Une pauvreté qui accable une personne d'une telle façon que cet homme ou cette femme va passer l'essentiel de son temps à travailler et à trouver de quoi subvenir à ses besoins. Et que la personne, certains commentateurs disent que la personne dans cette situation de pauvreté extrême peut parfois même oublier les bienfaits qu'Allah lui a accordés, la santé, il a raid et zalik. Autre épreuve, et là c'est tout à fait le contraire, que le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé, qu'une richesse qui vous fait oublier Allah azza wa jal, une richesse qui rend l'homme ingrat, une richesse qui rend l'homme ingrat. C'est le cas d'une personne qui n'avait pas forcément les moyens et qu'à un moment donné, par rapport à un travail, un contrat ou un héritage ou quelle que soit la situation, la personne se retrouve du jour au lendemain dans une situation extrêmement confortable. Et cette richesse le fait oublier son créateur. Cette richesse va lui persuader que ce qu'il a obtenu, ses bienfaits, ça vient de lui. C'est grâce à son travail, c'est grâce à ses efforts, grâce à ses études, grâce à quoi que ce soit, mais il oubliera son Seigneur. Et donc le premier commentaire, la première conclusion qu'on avait fait la dernière fois à la lumière du sharh du hadith, c'est que lorsque nous vivons dans une situation où on n'est pas éprouvé par une pauvreté extrême, ni éprouvé par une richesse qui nous fait oublier Allah Azza wa Jal, mais qu'on est dans une situation intermédiaire, que quand tu dors le soir, ton ventre est plein, et que le matin tu te lèves, tu es en bonne santé, et que tu es autonome, tu as un toit, tu as une famille, tu as des enfants, et que tout le monde, même si on n'a pas un rythme de vie extraordinaire, mais que, alhamdulillah, on ne manque de rien, ben, ne demande rien de plus à Allah Azza wa Jal. Et sois satisfait de ce que ton Seigneur t'a accordé. Vous avez la plus grande maladie. Discuté avec une personne cet après-midi, une personne qui est très dans la psychologie, développement personnel, ce genre de thèse, mais tout en ayant un attrait pour la religion, dit qu'une des grandes maladies à notre époque, c'est la cupidité. La cupidité, c'est « hubbu dunya » excessif. c'est un attachement excessif pour les biens de ce monde, un tel attachement que lorsqu'Allah te donne 100, tu veux 1000. Lorsqu'Allah te donne 1000, tu veux 10 000. Lorsqu'Allah t'accorde 10 000, tu veux 1 million. Et cela ne s'arrêtera pas. Et cela ne s'arrêtera jamais. Le prophète alayhi salatu wasalam a annoncé qu'il y a un estomac. C'est une métaphore en arabe. En créole, on dit un ventre, il remplit jamais. Mais en arabe, on dit une ma'ida, un estomac qui ne se remplira jamais. C'est cet estomac, c'est-à-dire ce ventre qui aime le dunya. Et il demandera sans arrêt jusqu'à ce que ce soit la terre qui remplit son ventre. C'est-à-dire quand la personne est morte, elle est enterrée, là, elle ne recherche plus le dunya. C'est une réalité. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'il nous donne cette information, « Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha » Tout ce que le prophète alayhi salatu wasalam nous annonce, nous explique concernant le din, c'est inspiration directe de la part d'Allah. Et Allah qui est le créateur de la machine humaine, Allah qui est le créateur du cœur humain, de la psychologie de l'homme, de ses atouts mais également de ses faiblesses. Et Allah crée cette faiblesse en l'homme. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا Que l'attachement excessif pour les biens, ça fait partie des défauts de l'être humain. Ça fait partie de la nature humaine. Et donc le prophète alayhi salat wa sallam nous met en garde. Attention, si vous allez dans ce sens, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, quand Allah vous donne quelque chose, faites preuve de... Qui connaît le mot magique ? Commence par un qaf, un nun, un alif, qana, qana'a. La qana'a, al qana'a, c'est être satisfait de ce qu'Allah nous a accordé. Et donc en discutant avec la personne, il m'a dit que aslul, l'origine de tous les problèmes au sein des familles, entre les amis, au sein de la umma, c'est hubb ad-dunya, la cupidité. C'est que quand tu veux toujours plus, et même si tu as une situation qui est correcte, il suffit que tu vois que ton camarade a une montre plus jolie que la tienne. Moi, j'ai pas de montre. Alhamdulillah. Plus jolie que la tienne. Et donc, ton regard porte direct sur cette personne. Et ça te met dans un tel état, tu deviens comme un prédateur. Et c'est là qu'il y a une maladie qui va s'éveiller. Ça s'appelle hein? Une maladie spirituelle. Al-hasad, la jalousie. La jalousie, celui qui est atteint par cette maladie spirituelle, vit un cauchemar du matin au soir. Un cauchemar pour toi-même, parce qu'au devant, tu n'es jamais plein. Parce que même si tu t'assois sur un siège en tissu, tu voudras un siège en velours. Si on te donne un siège en velours, tu chercheras le siège en... Comment on dit ça, un nouveau terme en automobile, on dit ça. C'est comme du daim. Alcantara. Je ne sais pas si c'est malgache ou si c'est espagnol. Alcantara, en espagnol. Alcantara, ya, en malagasy. Si on te donne un siège en Alcantara, tu voudras un siège en cuir. Et puis tu voudras un siège en argent et un siège en or. Et tu voudras un trône. Hakada dunya ou hakada al-insan. Et donc, à chaque fois que tu vas voir une personne, ben, c'est normal, Allah a fait taqsim al-rizq. Cette personne, elle a plus de diplômes que moi. Lui, son madame les plus jolies. Lui, il a une plus belle voiture. Lui, il habite dans une villa. Lui, il a telle chose. Lui, ses chaussures, c'est tellement. Lui, il a réalisé Alik. Et c'est comme ça le dunya. À chaque fois que tu vas percuter, et je connais, Wallah al-Musta'an, je connais des gens qui sont comme ça. Et j'écoutais un cheikh qui faisait un dal, disait que quand tu as dans ton entourage un ami qui est malade de la jalousie, fuis. Fuis cette personne. Minimum, salam, ça va, et vous ? Après, chape. Parce que cette personne est malade. Et cette maladie-là, elle peut te causer du tort. De quelle façon ? Al-Ain. Al-Ain, c'est quoi ? Le mauvais œil, le mauvais regard. Le nazar, comme il dit ici. Le mauvais regard, le regard envieux. Le regard jaloux. Et le regard envieux n'est jamais un regard innocent. Le regard envieux n'est jamais un regard neutre. Le regard envieux, c'est toujours un regard de méchanceté parce que cela démarre d'une mauvaise interprétation du taqdir. Non, d'une non-acceptation du taqdir. Je n'accepte pas que lui, il gagne plus que moi. Je n'accepte pas que lui, il a eu ce poste alors qu'on a passé le même concours. Il a réalisé Alik. Et donc, le Ain, c'est jalousie pour lui et c'est mauvais. Le professeur me dit que la jalousie consomme les bonnes actions comme qui complète. Hadith. Comme le feu consomme le bois sec. Comme le feu consomme le bois sec, fais des bonnes actions, fais tahajjud, lis le Coran, fais dhikrullah, lis 1000 durul sharif, salat al nabi par jour. Mais la jalousie, quand tu vois des bienfaits sur quelqu'un et que tu as envie et que tu ressens, et la jalousie, elle tremble, c'est un sentiment qui tremble, qui fait trembler ton cœur et qui est rempli d'insatisfaction et de colère. La jalousie, pour reconnaître que c'est la mauvaise jalousie, tu ressens une colère. Une colère, tu ne sais pas cette colère, tu orientes vers qui, mais en fait cette colère, tu l'orientes inconsciemment vers Allah, qui ne t'a pas donné ce qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Et cette colère, tu l'orientes vers la personne. Pourquoi il a ça et moi j'ai pas? Tu crois que c'est par méchanceté qu'il a une plus belle montre que toi? C'est pour te rendre malade? Non, il a ce qu'Allah lui a accordé. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans cette maladie de jalousie, c'est sa vie qui est pourrie. Et il ne pourra pas se passer de voir quelqu'un avec quelque chose qu'il n'a pas sans avoir cette douleur de son cœur. C'est-à-dire, sa vie va devenir un cauchemar. Et des fois, il n'a pas besoin de voir, il entend. Connaît telle personne partie habite l'Angleterre, partie habite Paris, partie habite Genève. Il a eu tel poste, mashallah. Ah, pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est comme si que ton cœur il craque. Hassad, tu te fais du tort. Est-ce que le fait de savoir que ton ami a eu un poste d'architecte ou je ne sais pas quoi là-bas, est-ce que le fait d'être triste, ça change ta situation? Est-ce que le fait de pleurer ou d'avoir la colère, ton patron va dire hey, tu es en colère, tu es triste, allez, je double ton salaire? Ça ne se passe pas comme ça de ce dunya. C'est-à-dire, ta colère et ton ressenti ne changera rien à la situation si ce n'est que t'enfoncer plus encore. Alors que le mu'mine qui est. Ça, c'est qualité du croyant. Le mu'min, le prophète a décrit que quand son frère c'est qui? C'est pas son frère de sang, c'est son frère, innamal mu'minu ikhwa. N'importe quelle personne, tu apprends qu'il a eu un bienfait, tu es content pour lui, comme si c'était toi qui avais gagné ce bienfait. Alors que le munafiq, l'hypocrite, et qu'Allah nous protège, et que chacun scrute son cœur, pour voir comment est-ce qu'on réagit quand on entend qu'une personne a eu une promotion, a eu une augmentation ou a eu un bienfait. Si lorsque tu entends que ton frère a eu quelque chose de bien et que tu ressens une colère intérieure, il y a alamat nifaq, Allah nous protège. Il y a présence d'hypocrisie, parce que le munafiq, l'hypocrite, c'est lorsqu'il entend que quelqu'un a quelque chose de bien, il est en colère. Et lorsqu'il entend que quelqu'un a un problème, même s'il ne montre pas sa joie, mais intérieurement il dit, si la paix est là, moi je vais gagner plus. Na'udhubillah. C'est comme si que le dunya ça marche comme ça. Ah, son magasin est fermé. Ben, qu'il y en a, va venir pour moi ça. Tu crois que le risque ça se passe comme ça? Le risque c'est taqsim min Allah. Et donc tu ne crois pas que c'est Allah qui fait taqsim, qui a distribué la subsistance. Donc l'origine c'est quoi? Si on pouvait faire un tableau, il y a la cupidité. La cupidité mène à la jalousie. La jalousie mène au haïn, au mauvais regard. Le mauvais regard ça peut tuer quelqu'un, vous savez ça? Le prophète a dit le mauvais regard peut faire tomber le cavalier de sa monture. Le mauvais regard peut tuer. Par exemple, il dit que beaucoup de gens dans ma umma vont mourir du mauvais regard. Et quand quelqu'un arrive à ce degré de mauvais regard, de jalousie, pardon, et que c'est incontrôlable, il peut même aller vers le sihr, la sorcellerie, pour essayer de casser le frère, casser son couple, casser sa famille, faire chuter, parce que, comme il dit en créole, le devant, il fait trop mal que la personne est satisfaite et heureuse, elle bénéficie de tout ce que toi, tu ne peux pas avoir. Et donc, l'origine, donc, on revient à aslul mashakil. L'origine de tous les problèmes, c'est quand ton cœur n'est pas satisfait de ce qu'Allah t'a accordé. Ça, c'est hubbu dunya, ça, c'est une des pires maladies, la cupidité. Et le contraire, la qualité que le prophète m'a vantée, c'est al-qana'a, ce qu'Allah t'a accordé, alhamdulillah. Tu es satisfait et tu remercies Allah. Et donc, cette situation intermédiaire entre pauvreté et richesse, c'est un ni'ma. Si tu dors le ventre plein et que tu ne dois rien à personne, sache que tu es comblé par ton Seigneur et que tu es en bonne santé. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Troisième signe, là on n'avait pas développé la maladie, on avait fait? Je ne sais plus si on avait fait la maladie. Le Prophète dit, « Aou, maradan mufsida », on avait juste introduit que si parmi les trois, parmi ces sept épreuves, une maladie qui empêche l'homme de se retourner vers Allah. Dans quel cas une maladie t'éloigne d'Allah? C'est quand le cœur, le iman n'est pas formé. Alors que le mu'min qui a yaqin en Allah Azza wa Jal, il va interpréter la maladie comme étant ibtila, une épreuve de la part d'Allah. Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans des commentaires, ça remonte à un an et demi ou deux ans, il dit qu'il y a quatre catégories de personnes face aux épreuves. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Premièrement, celui qui, lorsqu'il est éprouvé, ne comprend pas, il dit « Allah, pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas un tel? Moi je prie, moi je fais la salat, je suis au premier rang. Un tel il vient jamais à la prière, il vient que du ma'an. Et c'est moi Allah que tu éprouves. » Ça c'est parole qui est proche du kufr. proche du kufr. Parce que tu reproches à Allah de t'avoir éprouvé, de ne pas avoir éprouvé quelqu'un d'autre. Deuxième niveau, c'est la personne accepte, ne dit rien. Pas de parole de kufr, pas de parole de inad ou autre chose, mais dans son cœur, il aurait tellement souhaité être épargné de ça. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que ça, au contraire, c'est un cadeau de la part d'Allah. Troisième catégorie, la personne qui sait que c'est une épreuve de la part d'Allah et qui fait preuve de patience et de persévérance et qui recherche l'objectif, qui essaie d'atteindre plutôt l'objectif. Réussir à l'épreuve pour qu'Allah soit satisfait de toi. On a l'impression que c'est le summum. Ça a l'air d'être le top des tops. Mais au-dessus de ça, ça c'était une qualité qui était propre aux sahaba. Quand ils étaient éprouvés, ils remerciaient Allah. Quelqu'un dit, mais ça bouge, il est malade ça. Il a un problème de remercier Allah au lieu de pleurer, de dire pourquoi. Pas pourquoi, mais au lieu de pleurer, de dire Allah enlève ce bala. Sahaba remercie Allah qu'il y avait des épreuves parce qu'il savait que, Allah pensait à moi. Allah pensait à moi. Allah envoyait tel problème, telle maladie parce que mon Rabb de sa clémence, Allah qui est Al-Halim, Allah qui est Al-Latif, le bienveillant, il sait que j'ai un quota de gouna, de péché. Et que pour laver ce péché-là, il faut une épreuve. Il faut des difficultés et qu'à l'issue de cette épreuve, je vais ressortir, Inch'Allah, clean, sans péché. Donc, Allah est en train d'augmenter mon darajat, effacer mes péchés et m'accorder un plus haut rang, grade dans le Jannah. Ça, c'est le plus haut degré de foi. C'était les Sahaba, Ridwanullahi alayhim ajma'in, c'était Urwa bin Zubair, c'était d'autres Sahaba dont on a déjà cité des exemples. Alors qu'une personne qui n'a pas cette préparation spirituelle, mais la maladie risque de le détourner de l'adoration parce qu'il va se préoccuper de sa santé, il va être angoissé, il va être anxieux. Il y a des personnes qui, subhanallah, on ne va pas rentrer dans des anecdotes, dans des situations interminables. À l'époque, on habitait dans la ville sainte de Madina, bifadlillahi ta'ala wa bikaramihi. On avait rencontré des gens qui nous rapportaient des anecdotes, de situations, d'épreuves. Dès qu'une personne... Il va chez un médecin, pas un musulman, un étranger, c'était pas un arabe. Il annonce que voilà, malheureusement, la tumeur qu'on a découverte, elle n'est pas bénigne, elle est maligne. C'est-à-dire que c'est un cancer. Et en général, un cancérologue annonce ça à une personne, c'est le choc. Et il voit que cette personne, mais Ahlil Madine, les gens de Médine, il dit Alhamdulillah, il remercie Dieu pour cette situation. Le docteur ne comprend pas. Il dit non, mais peut-être que vous n'avez pas compris c'est quoi un cancer. Peut-être vous croyez que c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de grave, vous allez peut-être mourir. Vous allez peut-être mourir, votre femme sera veuve, vos enfants seront orphelins. Il dit, j'ai compris moi la maladie, il n'y a pas besoin de m'expliquer. Mais cette épreuve-là, cette situation, c'est une épreuve qu'Allah a envoyée. Et c'est Allah a décidé que mon ruh quitte mon corps à l'issue de cette épreuve et que je reste patient jusqu'à mon dernier souffle. Ben subhanallah, j'aurai réussi l'épreuve et peut-être que c'est par cela qu'Allah m'accepte. Inna sa'yakum lashatta. Peut-être que ma vie a été acceptée par sa situation. Je connais là actuellement une personne qui est atteinte de leucémie. Personne âgée, fait traitement en métropole, longtemps, âgée, plus de 80 ans. C'est difficile à cet âge-là de subir la chimiothérapie, les traitements très lourds. La personne est revenue. Il doit repartir, parti de l'hôpital Saint-Pierre, parce qu'apparemment, c'est n'importe quoi. Bref, parti, tellement de grévistes aussi, Allah, ça n'inquiète plus de travail. Parti à Saint-Pierre, fait une semaine de soins, de traitement. Mais tout le monde connaît que la chimio commence à. Ça met quelqu'un KO, qu'Allah nous protège nos proches, protège nos parents, nos enfants, les gens que nous aimons, et protège Jami' al-Muslimin de cette maladie. Wannas Jami'a. Et demandez les nouvelles de cette personne hier. Comment il est? Est-ce que ça va? Alhamdulillah, ça va. Il n'y a pas un ouf. Il n'y a pas une plainte. Elle dit que là, je fais le traitement en France. Là, je reprends. Mais ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. Ajib. Niveau de sabr. Niveau de patience, d'acceptation de la situation de la part d'Allah. Et c'est darsun lana. Leçon pour nous. Parfois, nous, on a un petit souci. On en fait un plat. Alors que des personnes ont des situations très graves. Voilà. Donc, pour ne pas aller trop loin dans les exemples. Mais juste pour qu'on comprenne que le mu'min qui place sa confiance en Allah, quelle que soit la situation, il sent... Remet Allah Azza wa Jal. Et il ne connaît jamais de situation de détresse. L'histoire de Urwa, Sahaba, on a déjà cité son histoire. Il fait un accident en chemin. Et sa monture tombe sur lui et il le blesse, si je ne me trompe pas, il s'appelle Urwa, si je ne me trompe pas, et on doit amputer sa jambe. Accident très grave. Au moment où on annonce qu'on doit amputer sa jambe, quelqu'un vient, dit qu'il y a une mauvaise nouvelle. Ton fils a un accident au pays. Il est décédé. Comment une personne encaisse deux difficulté, deux épreuves comme ça. Il dit que il lève les mains et dit, Ya Allah, tu m'as donné quatre membres. Tu en as repris un et tu m'en as laissé trois. Ya Allah, tu m'as donné sept enfants. Tu m'en as repris un, tu m'en as laissé six. Ya Rab, si tu as donné, tu as été généreux. Et si tu as repris, tu as été clément. Tu m'as donné plus que ce que tu m'as repris. Yaqeen, conviction en Allah Azza wa Jal. Mais ça, c'est un autre level, comme il dit. Ça, c'est le niveau des sahaba, ridwanullah, ya'ali, majma'in. Et donc, pour revenir à une autre conclusion, une personne qui, durant toute sa vie, fait de bonnes œuvres, et qu'à un moment donné, la maladie l'accable. Ça me dit que la personne qui est atteinte d'une maladie, Allah Azza wa Jal ordonne aux anges de continuer à inscrire les bonnes actions qu'elle faisait quand elle était en bonne santé. Par exemple, la personne faisait qiyamul lait tahajjud tous les soirs. Et qu'à cause d'un problème de santé, il ne peut plus se lever. Mais Allah Azza wa Jalla demande aux anges d'inscrire tous les soirs tahajjud parce que ce croyant, s'il était en bonne santé, il aurait continué. Et ça, c'est toute la magie du niya. Innamal amal bin niya. Allah connaît ton niya. Et c'est la puissance d'Allah qui est alim. Qui connaît tout, Ali Mumbidat al-Sudur, qui connaît ce qu'il y a dans la poitrine, qui connaît quand quelqu'un veut faire du mal, mais qui connaît également quand quelqu'un aurait aimé faire du bien. Hada. Quatrième, on va s'arrêter à là. Quatrième point, et ça c'est Allah nous protège. Aou Haraman, le Prophète a parlé d'une vieillesse, on veut le terme exact, Bismillah. Là je ne trouve pas la traduction du hadith, mais il parle d'une vieillesse, voilà, une pauvreté, une vieillesse affaiblissant votre esprit. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. Et justement, quand on parle de Al-Haram, avec un petit « hé », c'est cet état de vieillesse où la personne redevient presque comme un enfant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de demander doua de protection contre ce qu'on appelle « ardhalil umur », contre un âge où la personne rétrograde, perd ses facultés et la personne devient à la merci des gens, a besoin des gens. Ça, c'est un doua qu'on doit demander, qu'Allah ne fait jamais muhtaj de quiconque. Que jamais on ait besoin de quelqu'un pour nous aider, pour nous assister dans notre vieillesse. Qu'Allah nous garde notre izza, notre santé, mais également notre honneur, et que jamais la personne n'ait besoin de tendre la main ou d'être assistée. Le Prophète m'a dit donc, faites le maximum de bonnes actions avant cette situation, également maladie ou une vieillesse qui vous fatigue. On va s'arrêter là, parce qu'après il reste deux points, et ces deux points-là, trois points. Les trois points qui restent pour la prochaine fois, la mort, et ça c'est inévitable. Une personne peut ne pas être touchée par la pauvreté, ni par une richesse excessive, ni par la maladie. Une personne peut ne pas être atteinte par une vieillesse qui le rend sénile, mais al-maut, ça c'est la buddha minhu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça, il n'y a pas d'échappatoire. Et donc, on comprend le message, faites le maximum de bonnes actions avant que cette mort ne vous accable. Pour ça, me dit dans un hadith, « Iza mata ibn Adam in qatta'a amalu. » Lorsque l'être humain meurt, il n'y a plus de bonnes actions pour lui. Khalas. Son quota de bonnes actions, c'est comme si que vous avez fermé le compte. Le livret d'action est fermé. « Illa min thalatha. » Exception faite de trois actions, de trois bonnes œuvres qui te procurent encore des hasanat après ta mort. Et quand on entend ça, on dit qu'il me faut au moins un des trois. Au moins, j'ai un virement permanent, même après ma mort. Sadaqatin illa min sadaqatin jariya. Sadaqatin jariya, comment on peut traduire? Une aumône perpétuelle, un waqf, awqaf, différentes façons de le dire. Je prends un mushaf, Qur'an. Quand je prends 20 Qur'an, je vois le directeur de la madrasa, il dit voilà, il y a 20 Qur'an. Donnez aux élèves. Il y a des gens qui font ça, qui nous donnent des masahif. Vous donnez aux élèves et le Coran l'accompagne depuis qu'il commence à les flammer jusqu'à ce qu'il termine. Combien de hasanat tu es en train de gagner? Combien? Et que la personne, si même après, continue à lire dedans, hasanat. Vous avez construit une masjid, construit un hôpital, construit un puits. C'est-à-dire un investissement. De nos gens, on parle d'investissement. Dans quoi il faut investir? Dans quel? Et ainsi de suite. Mais investissement, c'est dans ce qui te rapportera hasanat ba'd al-maut. Tu meurs, tu es décédé, 10 ans, 15, 20, 30 ans, 50 ans après, tant qu'il y aura des gens qui vont prier dans cette masjid ou qui vont boire de ce puits, Allah Rabbul Izzah te donne encore des hasanat. Ou, ilmin yantafi'u bihi, une connaissance qui sera profitable. Ça, c'est pour la personne qui a le ilm, qui écrit un livre ou qui enseigne et que son ilm sera transmis de personne en personne. Là, on entend un hadith qui est rapporté par, subhanallah, Tirmidhi. At-Tirmidhi, rahimahullah, qui est décédé depuis combien de siècles? Ah, je ne peux pas vous dire ça par contre. Là, je n'ai pas recherché la biographie. At-Tirmidhi, rahimahullah, depuis combien de siècles il est décédé? Tous ces grands savants de la région de l'Europe de l'Est. Bukhara, tous ces grands ulama de hadith, c'est l'Europe de l'Est. La Russie, la Biélorussie, Tagestan, Dagestan, toutes ces régions, subhanallah, leurs tombes sont là-bas. Au moment où on est en train de lire ce hadith, il obtient des hasanat. Parce que c'est lui qui a fait tadwin de ce hadith. On est en train de lire le charh de Riyad al-Salihin d'un savant et à la base compilé par An-Nawawi. An-Nawawi, rahimahullah, il est en train d'obtenir les récompenses de ce majlis. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait l'effort d'écrire ce livre, de compiler ces hadiths. Tirmidhi l'a rapporté, il l'a authentifié. Lui, il l'a compilé dans un ouvrage et quelqu'un a fait le charh. Et nous, on est en train de travailler ça. Ça, c'est ilmun, une connaissance qui apportera. Donc, on réalise qu'un des plus grands bienfaits, c'est ilm, la connaissance religieuse. Et troisièmement, au waladin salihin yad'u la. Un enfant pieux, salih. Un enfant pieux qui continuera à faire dua pour toi, c'est-à-dire quand? Ba'd al-maut, après la mort. Un enfant pieux qui fait dua pour toi de ton vivant et qui après ton décès continuera à faire dua pour toi. Continuera à accomplir les bonnes actions, à aller sur le chemin que le papa l'a montré. L'a enseigné à ses enfants les cinq salats. Ya bunayya, aqimis salata. Oh mon fils, la prière c'est la priorité. Et l'enfant il prie jusqu'à sa mort. Il comprend, le papa enseigne à l'enfant que ne laisse pas un jour passer sans que tu ne donnes quelque chose à quelqu'un. L'aumône, sadaqa, grand cœur, générosité, aide ton prochain, tends la main aux personnes qui sont dans ta clé de difficulté. Il arrête les dhalik, l'enfant va grandir avec ses principes, va faire un amal et les parents seront les premiers à profiter. Wallahi l'azim, wallahi wallahi, après notre mort, on ne profite pas des honoraires d'avocat de notre fils. On ne bénéficie pas du salaire de notre fils qui était médecin, architecte, dentiste, professeur d'université, même s'il gagnait des centaines de milliers d'euros par mois, par an, même s'il était très riche. C'est pour lui ça, c'est son mulk. Mais toi, ça ne t'apporte rien. Par contre, si ton fils, il est dans le din, il pratique son din, il est pieux, fait doua pour toi, ben subhanallah, c'est ce parent-là, ce papa ou cette maman, ce sont les premiers à prier. Donc nous aussi, si, même si on sort un peu du sujet, parce qu'on a des parents qui sont décédés. Pour ceux qui ont des parents vivants, fait doua pour eux, au moins cinq fois par jour. Si les parents sont décédés, on ne doit pas laisser une salah passer sans faire doua qu'Allah accorde maghfira à nos parents, parce que ces doua-là leur seront profitables. Vous arrêtez là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, il reste deux thèmes, deux points. C'est la venue de Dajjal et le Qiyama. Deux choses également qui doivent, la mahala, se produire. Qu'Allah Azza wa Jalla donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah éclaire nos cœurs, remplisse nos cœurs de lumière, même si la lumière elle part, mais que la lumière pénètre nos cœurs. Et qu'Allah nous fait voir la vérité. Arina al-haqqa haqqa wa arzuqna. اتباع سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.